Monsieur Lalonde, bonjour.
Bonjour Paul, salut Alain.
Salut Ray.
Bon, il y a un sujet qu'on pourrait avoir comme thème ce matin, là. En fait, deux sujets, mais appelons ça le thème sport et santé publique. Un, les foules dans les amphithéâtres. Puis là, on le sait, ça varie beaucoup. Et à moins que la santé publique change sa politique pour le Québec, là, le Centre Bell, il n'y aura pas plus de monde, là.
On s'attend à 7500 personnes, c'est ce qui a été communiqué aux détenteurs de billets de saison, qui vont être les premiers à pouvoir se procurer des billets. Ça commence lundi au Centre Bell. Alain l'a dit, la saison préparatoire de la Ligue nationale commence demain. C'est difficile toujours à comprendre puis à faire l'état des lieux avec ça, parce que tu regardes en juin, juillet dernier, lors des séries éliminatoires, autant au hockey que dans la NBA, c'était plein à capacité aux États-Unis. Puis nous, on est 3-4 mois plus tard, puis on se retrouve dans une situation où les équipes sont limitées dans leur capacité permise par la santé publique. Évidemment, moi, je crois fondamentalement qu'on est dans le bon chemin versus qu'est-ce qui se passe aux États-Unis.
Ben, cependant, si tu prends la Floride, disons qu'eux autres, là, ils ont peut-être eu plus de liberté, mais ils sont en fait, depuis plusieurs semaines, ils en payent le prix, là.
Exactement, exactement. Alors, mais ça n'a pas été encore prouvé, Paul, que les contaminations proviennent de souches ou de sources à l'intérieur des stades sportifs qu'on a vu plein à capacité avec le baseball majeur cet été, le US Open, les matchs de la NFL qui ont repris comme à la normale. Alors, mais le Canada est toujours un peu particulier, plus prudent, plus conservateur, puis on a mieux géré cette réalité-là. Mais de ville en ville, de Vancouver à Montréal, la situation diffère. On a vu des équipes aller tôt se prononcer disant qu'ils veulent accueillir des salles combles dès le départ. Puis là, le gouvernement est revenu puis a resserré la vis. Puis on a vu ce qui s'est passé en Alberta. Écoute, jeudi, je pense qu'en Alberta, il y a eu comme 1160 cas de COVID.
Écoute, la moitié des cas COVID au Canada sont en Alberta.
Ils sont en train d'exporter leurs malades, là. Ça fait que...
Exactement. Puis ces deux clubs-là avaient annoncé qu'ils s'attendaient à être à 100% de capacité. C'est sûr que ça va réduire. Puis là, on a annoncé que Toronto aussi, qui avait prévu démarrer à 100%, vont commencer à 50%. Puis c'est 33% pour Montréal. Winnipeg, à date, est la seule qui demeure convaincue que c'est 100% de capacité dans l'amphithéâtre qui ne contient qu'à peu près 15 500 places. La réalité là-dedans, c'est que chaque province a toujours géré ça différemment. C'est problématique pour des amphithéâtres intérieurs versus des stades de la MLS au Canada ou de la Ligue canadienne de football. Ça, c'est différent parce qu'on joue à l'extérieur. Mais à la fin, c'est compliqué, puis c'est difficile, puis il y a énormément de pertes de revenus, encore une fois, sur le chemin à venir.
Okay. Parce que les Blue Jays là, qui ont demandé la permission d'augmenter le nombre de spectateurs pour la dernière semaine. Il y a une grosse série contre les Yankees de New York la semaine prochaine. Et là, ils sont limités à 15 000, puis ils aimeraient augmenter un peu. Là.
Bien autres, entendu, parce qu'eux sont dans la course aux séries.
C'est ça.
Il y a un enjeu important. Les Blue Jays, parmi toutes les équipes de sport au Canada, ont été ceux qui ont le plus souffert. On les a transportés à Buffalo une saison complète l'an dernier. Cette année, on commençait en Floride, ils sont revenus à Buffalo, et là, ils arrivent à Toronto. Alors, mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas se laisser prendre par nos émotions puis être subjectif dans ça.
J'ai une question à te poser, toi qui connais bien le Centre Bell, là. De gérer un passeport vaccinal à l'entrée, tu sais, pour une foule importante, là, je sais pas, mettons qu'on passerait à 12 000, 15 000, c'est faisable, c'est compliqué, qu'est-ce que t'en penses?
C'est compliqué parce que les points d'accès sont quand même limités, Paul, tu sais, il y a 3, 4, 5 entrées principales et c'est long. Donc, c'est un peu comme le principe des aéroports. Après le 11 septembre 2001, il y a eu comme 2-3 heures d'attente dans chacun des aéroports. On revient à ça aujourd'hui dans les stades sportifs. Faut prendre le temps, les mesures de sécurité, les précautions, les protocoles, valider tout ce monde-là. Puis là, forcément, tu as toujours des débats, des disputes, des récalcitrants, puis ça prend plus de temps, puis ça retarde.
Okay. Fait
qu'il va falloir qu'on soit bien prudent. Mais 7500 avec des pochettes de 500 personnes par section... Moi, je pense que ça va se gérer correctement.
OK. Parlons des joueurs qui refusent d'être vaccinés. On avait un joueur chez le Canadien dont on parlait cette semaine.
C'est Yolen, il a changé d'idée.
Il a changé d'idée. On a déjà un peu abordé le sujet parce que les joueurs doivent être vaccinés. Ils ont une certaine liberté, mais en même temps... Alors que le personnel d'entraîneur, eux autres, ils n'ont pas le choix, sinon ils perdent leur job. Là.
Tout à fait. Et ça, je pense que c'est la chose à faire. Puis honnêtement, je ne comprends pas que les ligues n'imposent pas aux joueurs, peu importe la ligue. Ils vont toujours dire, mais dans la convention collective... On a effectivement des droits comme joueurs. Puis, Paul, on est rendu là, dans la NFL à 94%, puis dans la Ligue nationale de hockey à 98% des joueurs. Fait qu'on parle là, possiblement que d'ici le début de la saison, il resterait une douzaine de joueurs dans la Ligue. Mais là, le problème, c'est pas juste ça. C'est que si tu refuses de te faire vacciner, Mais là, ça se peut que tu puisses pas voyager en avion dans l'autre pays, c'est-à-dire les États-Unis, ou pour les Américains, de venir au Canada. Donc, tu pourrais, en principe, être éliminé la moitié de la saison. Ça convient pas aux équipes, ça. Les équipes n'ont pas besoin de joueurs qui jouent à demi-temps. Alors, ça, c'est un problème. L'autre réalité que je voulais souligner ce matin, c'est les athlètes en général qui refusent de se présenter au camp d'entraînement, qui refusent de participer aux activités de l'équipe, qui refusent malgré des contrats. Fait que là, je vais vous en nommer deux, trois. Aaron Rodgers, qui est peut-être la plus grande star de la NFL, joueur le plus utile à son équipe l'an dernier. Il n'a pas gagné le Super Bowl. C'est pas Tom Brady. C'est un joueur très connu. Lui, là, il a causé toutes sortes de problèmes aux Packers en plein été, avant la saison, quand il y a un contrat en bonne et due forme. Ben Simmons, qui joue pour les Sixers, qui a un contrat de 5 ans, il reste 4 ans à jouer. Le gars gagne 35 millions par année. Il dit, c'est fini pour moi, je ne joue pas à Philadelphie. J'arrête. Alors, que fait l'équipe? Puis dans la Ligue nationale, on a parlé dans les derniers jours, Alain, Jack Eichel,
ouais.
Avec les Sabres de Buffalo. Pas en condition, échoue son test physique. Le gars, c'était le capitaine des Sabres. Il avait signé un contrat de 8 ans pour 80 millions. C'est même pas l'argent qui fait en sorte que les joueurs sont motivés à y aller. Fait que c'est qui contrôle? C'est-tu le joueur qui décide, peu importe l'entente, qui va faire ce qu'il veut, ou c'est le propriétaire? C'est qui l'employeur? C'est qui l'employé? Puis comment les ligues vont faire en sorte que le partisan, le consommateur, va avoir le droit de voir les joueurs pour lesquels ils ont payé des
Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui adoptent la ligne dure avec un athlète.
Non.
T'sais, à un moment donné, ils finissent par céder. Là,
oui, ils ont peur. Puis en plus, ils se disent, de toute façon, il va falloir que je trouve une façon de l'échanger ou de le transiger. Fait que finalement, les athlètes ont une énorme influence, même quand ils sont sous contrat. Fait que rentre là-dedans le vaccin, puis le rejet, puis le refus de procéder. Finalement, tu trahis un peu, en quelque sorte, ton équipe. C'est ça qui est difficile dans le sport aujourd'hui, c'est l'influence des athlètes.